France Bleu Alsace, 10h-11h, bienvenue chez vous, François Pingano.
On ne change pas un concept gagnant ce lundi de Pâques qui vous propose de replonger dans le meilleur de Bienvenue chez vous, moment gourmand à redécouvrir ensemble. On tournera les pages du livre de Monique Young, Au crocodile, une école de vie. On parlera de chocolat avec Martine Schoffel-Castero qui nous parlera des ateliers de création autour du chocolat. Et puis de biologie également avec Hervé Maziou, biologue professionnel. Maxime Dillinger, avant de se lancer dans un chantier titanesque pour donner un coup de neuf à notre grande dame, c'est votre mission du jour avec vos invités, Maxime.
France Bleu Alsace.
Non, Maxime, non. C'est Maxime Dillinger qu'on doit retrouver, s'il vous plaît. Merci.
François Pingano.
C'est gentil. Maxime!
Oui, je suis toujours là. Non, ce n'est pas une blague. Je suis vraiment donc avec le cabinet Meyer. Alors, on vous a expliqué le projet. C'est sûr, ça paraît encore un peu fou, mais pourtant, c'est bien ça qui a été décidé. Alors, on va quand même prendre les choses au pied de la lettre pour le moment, puisque j'ai encore plein de détails à vous donner. Dans les prochaines minutes, là, on va parler d'inauguration. La première pierre qui sera posée d'ailleurs au mois de juillet avec quelqu'un qu'on connaît bien. Et je pense que ça va ravir nos auditeurs.
Vous parlez de père, c'est gentil. C'était de Pierre, oui. Bien. Côté jeu, on jouera ensemble avant 11h pour vous offrir un pack famille pour Sigoland entre Célesta et Kinsheim qui vient de rouvrir ses portes. Et puis n'oubliez pas que cette émission est aussi la vôtre. Vous pouvez vous exprimer, donner votre avis, faire vos remarques au 03 88 25 15 15. Installez-vous autour de la table car vous êtes chez vous. Alors bienvenue chez vous jusqu'à 11h sur France Bleu Alsace.
France Bleu Alsace, bienvenue chez vous.
C'est le best-of, le meilleur d'eux, avec une grande dame qui était l'invitée de Bienvenue chez vous dans les studios de France Bleu Alsace, Monique Young, propriétaire du Crocodile à Strasbourg, épouse du chef Émile Young, disparu il y a quelques années. Plus de 38 années au service de la gastronomie alsacienne, ils ont fait de ce restaurant un lieu emblématique. Dans son livre « Au crocodile, une école de la vie », Monique Young a rassemblé tous les souvenirs qui ont jalonné ce parcours et ce destin hors norme. Un travail laborieux pour consigner tout cela dans ce bel ouvrage.
Un parcours très difficile de faire ce livre en 6 mois avec Maurice Requel, je précise quand même. Et vraiment, je peux vous dire que ma maison, enfin mon appartement, c'était vraiment pendant 6 mois un Capharnaüm. Je ne savais plus où poser mes pieds. Il y avait des documents partout, des albums de photos, parce qu'évidemment, vous pensez en 38 ans, il s'est passé tellement de choses dans cette maison. Et tout ça s'est mémorisé également dans des albums. Et que vous retrouverez certaines photos forcément dans le livre. Mais en même temps, c'était une histoire passionnante parce que, à la fois un petit peu difficile, parce que quand il faut revivre sa vie plusieurs fois, parce que d'abord il faut se confier aux journalistes, ensuite tous les soirs il faut corriger évidemment ce qui a été écrit. Après, il faut implanter les photos. Et la quatrième fois, il faut relire pour corriger les fautes. Alors, il y a des moments, vous savez, j'avais l'impression, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Et encore aujourd'hui, je suis encore dans un, je ne sais pas, dans quelque chose qui n'est pas terminé. Parce qu'il faut assimiler tout ça, puisqu'entre-temps, il y a eu le décès de mon mari, il y a eu sa maladie. Et puis bon, aujourd'hui, il y a une espèce d'euphorie, si vous voulez, qui s'est installée avec ce livre, qui touche pas que moi, mais tous nos collaborateurs, parce que nous étions une grande famille.
Toutes celles et ceux qui sont passés mais par le crocodile et qui sont aujourd'hui installés.
Évidemment, parce que regardez, lundi, c'était extraordinaire. J'ai fait, il n'y avait pas que le crocodile, il y avait aussi 8 ans dans la maison familiale de mon mari à Mazou, où tout a commencé.
Et oui.
Il y avait donc notre premier apprenti cuisine de Mazou, et il y avait notre premier apprenti de salle. Et les deux sont à la retraite maintenant. Alors imaginez-vous, ce sont des petits garçons qui se sont rentrés à l'époque. Il y avait encore le pré-apprentissage, ils avaient 14 ans. Et aujourd'hui, ils ont 62, 63 ans. Et puis moi, je suis à la veille de mes 84 ans. Alors voyez un peu le chemin parcouru.
C'est une sorte de bilan. Que vous faites dans ce livre.
Ah ben oui, forcément, un bilan, mais bon, un bilan avec, si vous voulez, une ascension, puisque moi, je suis rentrée dans ce métier, il faut quand même un peu que je vous raconte comment. Moi, j'habitais donc Sainte-Marie-aux-Mines et j'avais une amie d'enfance qui était dans mon quartier et qui était un petit peu plus âgée que moi et nous jouions toujours ensemble. Elle est entrée à l'école hôtelière et en 1956, qui savait ce que c'était qu'une école hôtelière? Moi, je vous avoue sincèrement, je ne savais pas. Moi, mes parents s'occupaient d'un asile de vieillards, donc j'étais un petit peu dirigée, si vous voulez, vers la compassion, de vivre au milieu de personnes âgées. Et moi, j'étais une petite fille, je rendais service à tout le monde, je montais le bois, tout ça. J'aimais aider les personnes âgées. Et donc, cet ami, je l'ai plus ou moins perdu de vue. Et quand vous rentrez à l'école hôtelière, c'est une école qui vous accapare tout le temps. Vous n'avez pas beaucoup de liberté. Et donc, elle revenait tous les 2-3 mois. Et elle me disait, tu sais, tu devrais venir faire l'école hôtelière. Mais moi, ne sachant pas ce que c'était... Et puis, bon, moi, j'aurais plutôt voulu me diriger vers la médecine. Vous voyez, j'avais ce côté un peu comme ça, d'aider les autres. Et alors, forcément, elle m'a tellement convaincue que, bon, j'ai voulu convaincre mes parents qui n'étaient pas du tout d'accord. Parce que j'habitais Sainte-Marie-aux-Mines, il fallait habiter Strasbourg, une jeune fille seule, avec une chambre. Enfin, à l'époque, vous savez, on n'avait pas cette ouverture d'esprit. Donc voilà, je suis partie quand même après multiples discussions. Et donc j'ai tenu tête, j'ai réussi à partir à Strasbourg. Donc j'ai commencé cette école hôtelière. Moi à l'époque, j'étais dans une école privée avec des bonnes sœurs, où j'ai quand même eu une très bonne éducation. Et je tombe dans cette école hôtelière qui était encore rue de Lucerne à l'époque, avec des professeurs hommes, des garçons. Évidemment, pour moi, j'étais complètement paniquée. Et le premier week-end où je suis rentrée chez moi, j'ai dit, je ne veux pas rester là-bas. Et mon père a dit, tu as choisi, tu restes.
C'est dur, hein, à l'époque. Hein,
vous le remerciez encore aujourd'hui.
Et aujourd'hui, oui, je me dis, j'ai quand même fait un parcours exceptionnel, mais... Je ne pouvais pas m'imaginer où ce métier m'entraînerait.
Un ouvrage à se procurer, hein, au Crocodile, une école de la vie, Monique Young, à la librairie Kléber à Strasbourg. Monique sera en dédicace mercredi 3 avril, ce sera à 17h. L'île au trésor pour se procurer l'ouvrage à Ilkirch, Leclerc à Gespolsheim et la Presqu'île, librairie Presqu'île. C'est à chez Rive Étoile, donc une émission à retrouver en intégralité sur l'application ici et sur le site francebleu.fr Alsace, rubrique Bienvenue chez vous. La suite du best-of dans quelques instants. On parlera chocolat et puis on parle aussi de ce projet titanesque, pharaonique, digne d'un numéro bis dans Astérix Mission Cléopâtre. Mais là, ça va prendre un peu plus que 3 mois sur France Bleu Alsace. On en parle avec Maxime Nilinger dans quelques instants.
France Bleu Alsace, 10h-11h. Bienvenue chez vous.
Allez, Maxime Nilinger qui est avec nous, bien sûr, pour parler de ce projet titanesque. Et soyons francs, Strasbourg n'a pas le monopole des cathédrales flamboyantes. On en trouve un peu partout en Europe, de l'Allemagne à l'Espagne, en passant par l'Angleterre et la Belgique. Mais bon, on va pas se mentir, celle de Strasbourg est quand même sacrément belle, Maxime Nilinger, hein.
Mais oui qu'elle est belle, elle est magnifique, mais c'est vrai qu'il y a un petit problème de déséquilibre en fait. On a l'impression qu'il manque quelque chose, un sentiment d'inachevé. Et justement, c'est ce que le cabinet Meyer va essayer de combler. Alors, vous me dites, oh, bah, alors c'est quand ce projet? C'est pour bientôt? Ça prend du temps quand même à construire un tel projet. J'en reviens vers Émilien Dupré, hein, donc, qui est le directeur architecte du cabinet Meyer. On parle de la première pierre pour juillet 2024.
Oui, tout à fait. Donc, nous allons mettre en place la première pierre à partir du 6 juillet 2024, en même temps que les illuminations de Strasbourg. On s'est dit que ça serait un beau clin d'œil.
Et un autre clin d'œil qu'on aime bien, c'est que cette première pierre ne sera pas posée par n'importe qui.
Et non, pas par n'importe qui, bien sûr, puisqu'elle sera posée par Adeline Vetter, notre Miss Alsace 2024.
Très
bien. Mais oui, bien sûr.
Exactement. Adeline, bien sûr. Alors, ça, c'est pour la première pierre. Et il va y avoir combien d'années de travaux?
Écoutez, nous partons pour environ 5 années de travaux avec une fin prévue pour juillet 2029, nous espérons.
Ok, alors il y a quelque chose, si vous êtes pressé de savoir, il va y avoir une inauguration en grosse pompe, en grande pompe. Comme on est sur le thème de la cigogne, j'imagine qu'il va y avoir des cigognes peut-être, mais ça sera en 2029.
Oui, tout à fait. Alors nous avons prévu au moment de l'inauguration un lâcher de cigognes. Alors ce ne seront pas n'importe quelle cigogne, hein, ce seront des cigognes qui ont été soignées par la LPO, puisque nous avons un partenariat avec eux.
Ah, la LPO, on les connaît bien, j'étais il n'y a pas longtemps. Alors là, vous avez entendu, il y a un peu d'écho, parce que je suis dans la salle justement de travail, et j'ai du plan sous les yeux. J'avoue que c'est quand même assez, étonnant. En tout cas, c'est ambitieux. Il y a autre chose qui va se passer, c'est la nuit, c'est-à-dire que lorsque les lumières du jour vont s'éteindre, et on va pas passer sur la lumière artificielle. Là, à ce moment-là, on a du spectacle. Je vous présente Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc.
Oui, bonjour.
Jean-Luc, vous êtes le coordinateur du design luminaire. Mm-hmm. Et vous avez réfléchi déjà à quelque chose pour nous donner un avant-goût de cette flèche avant même l'inauguration.
Voilà, on s'est bien rendu compte qu'il fallait que les Strasbourgeois et les touristes qui passent dans notre ville puissent se projeter un petit peu. Donc, puisqu'on parle de projection, justement, on a prévu de mettre en place une structure gonflable qui aura exactement la taille et la forme de la flèche qu'on va construire, mm-hmm. pour projeter dessus la structure finale, en fait. Comme ça, tout le monde peut s'habituer et on n'aura pas besoin, quelque part, de patienter pendant 5 ans pour avoir une idée de à quoi ça va ressembler.
Ah, c'est étonnant, quand même, mais ça va donner déjà un avant-goût plus tôt. Je pense que ça va peut-être plaire aux touristes. Mais il y a une question, quand même, qui, pour moi, est primordiale, c'est pourquoi on ne l'a pas refait à l'identique, cette flèche. Je suis avec vous, Conrad, c'est vous qui êtes le designer, mais pourquoi on ne la refait pas à l'identique, cette flèche ?
Voilà, c'est une question qu'on nous a beaucoup posée, mais il faut savoir que le sol à Strasbourg est meule, et une deuxième tour du même poids créerait un enfoncement de la cathédrale et de l'édifice, donc on a réussi à résoudre ce problème avec une approche plus légère, avec la structure métallique que nous avons conçue.
Eh bien, alors ce qu'on va faire, on va aller directement sur la cathédrale dans le prochain quart d'heure, et on se retrouvera au pied là-bas avec toute l'équipe pour regarder un petit peu ce que ça donne dans le concret avec les projections, mais surtout de prendre aussi le pouls avec la population et leur demander ce qu'ils en pensent de ce projet.
Absolument, et on attend ça avec impatience sur France Bleu Alsace, Maxime Linger, donc pour parler de ce projet complètement fou. Pour 2029, l'inauguration, va falloir être très patient sur France Bleu Alsace.
France Bleu Alsace, 10h-11h, bienvenue chez vous, François Pingano.
Sourire et bonne humeur, en ce lundi de Pâques, le chocolat est à l'honneur sur France Bleu Alsace. C'est le best-of de bienvenue chez vous. Une belle maison alsacienne qui fête ses 60 ans en 2024. Daniel Stoffel à Genau, une chocolaterie familiale qui propose des ateliers chocolat thématiques, bien sûr. Et on en parle sur France Bleu Alsace maintenant, avec l'invité Martine Stoffel sur France Bleu Alsace.
Le chocolat est le seul aliment qui peut vous faire sourire sans raison quand on vous l'offre et quand vous le dégustez. On ne va pas se priver aujourd'hui avec notre invité Jean-Brice Sordonnet.
On a le sourire, je vous le confirme. Martine Stoffel-Castero est avec nous pour nous parler de cette belle maison, cette belle entreprise familiale qui fête ses 60 ans cette année. Les fêtes de Pâques, évidemment, c'est un temps fort pour la maison où des centaines de milliers de pièces en chocolat sont fabriquées chaque année et partent à l'occasion des fêtes de Pâques.
Oui, c'est vrai. Vraiment la saison pour nous, la tradition du lapin de Pâques en Alsace, mais pas qu'en Alsace, puisqu'on a des clients bien au-delà aussi et qui adorent les lapins principalement. Donc oui, pour nous, c'est un moment très très important dans l'année, dans notre activité de chocolatier.
Associez vos clients à ce travail du quotidien, à fabriquer par eux-mêmes grâce à des ateliers de création que vous proposez tout au long de l'année.
Oui, tout au long de l'année, on a plein d'occasions justement de créer du chocolat sur des thématiques tout à fait particulières, de partager ces moments en famille, entre amis ou à des occasions particulières. Donc on a tout un programme d'ateliers qui change tout le temps, régulièrement. Je pense que tous les mois, quasiment, il y a des nouveautés, il y a les ateliers, vraiment ceux qui sont qui ont plein de succès, on les garde. Les autres, on travaille, on en rajoute. Donc, ça reste des moments, ça reste des groupes entre 10 et 12 personnes. Donc, c'est vraiment idéal aussi pour communiquer, partager avec ceux qui vous entourent.
De 15 à 60 minutes pour ces ateliers, en moyenne, en termes de durée, il y a l'atelier Choco-Pac, l'atelier Choco-Création, Choco-Sens, Choco-Thé, Choco-Bière, aussi.
Et voilà, nous parlions du vin, la bière, le thé aussi. Oui. Effectivement, c'est des occasions de tester en fait des alliances de goûts, de savourer et puis de se laisser surprendre.
Voilà, et là on va repartir, on repart avec sa création à la fin.
Exactement, et tout le monde en est toujours très très fier, et quelquefois on est vraiment très impressionné par les qualités créatives et artistiques en fait des personnes qui sont là, et c'est super.
Et ça se déroule soit à Agno, à Ribeauvillé ou à Mundelsheim, dans vos ateliers avec vos équipes, avec vos maîtres chocolatiers.
Voilà, c'est ça, et donc on accueille le groupe, il y a nos animatrices, on essaie vraiment de faire le maximum maximum pour que ce soit un super moment.
En tout cas, merci d'être venu nous parler de cette belle actualité et de chocolat ce matin. On précise que vous en avez ramené pour les auditeurs de France Bleu Alsace qui peuvent d'ailleurs gagner ces ateliers tout au long de la semaine sur France Bleu Alsace. Et puis la semaine prochaine, on prépare Pâques tous ensemble sur France Bleu Alsace. Un immense merci.
Merci à tous et bonne fête.
Eh ben, à vous aussi. Merci en tout cas d'être venu avec tous ces cadeaux aussi, parce qu'on ne vous a pas dit, mais pendant toute l'émission, on s'est régalé.
Ouais.
Et d'ailleurs, toute l'équipe aussi de France Bleu Alsace est en train de se régaler. Je terminerai avec cette phrase. Le chocolat est un excellent moyen de se faire des amis. Offrez du chocolat à quelqu'un et il vous aimera instantanément. Et Martine, on peut vous le dire, on vous aime.
Vous revenez quand vous voulez, Martine.
Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Je veux dire, on n'en peut plus là, d'ailleurs, hein, avec tout ce chocolat qu'on a mangé jusqu'à maintenant. Allez, vous restez avec nous sur France Bleu Alsace. Le meilleur de Bienvenue chez vous continue, bien sûr, jusqu'à 11h. Et puis, on va retrouver aussi Maximilien G pour parler cathédrale en sa compagnie. Et puis, cadeau aussi, parce que c'est lundi férié, lundi de Pâques, bien sûr, avec un pack famille pour le parc Sigolande, qui sera à remporter dans quelques instants sur France Bleu Alsace.
France Bleu Alsace, 10h-11h. Bienvenue chez vous.
Et là, tout de suite, direction la cathédrale, peut-être. Vous êtes au pied ou pas, Maxime Nilinger, puisqu'on parle de ce projet titanesque quand même sur France Bleu Alsace.
Et oui, c'est sous ce magnifique soleil que je suis actuellement au pied de la cathédrale. Il fait un temps épouvantable. Et on s'est déplacé donc avec toute l'équipe du cabinet Meyer pour aller voir concrètement. On est à 10 minutes de marche, on est arrivé juste en face. Et là, au pied, donc, je suis avec Dany. Bonjour Dany.
Bonjour, je peux t'appeler par ton prénom? Bonjour Maxime.
Il n'y a pas de problème. Dany Martz, vous êtes le maître d'œuvre, vous. Et justement, on s'est rejoint ici.
Oui.
Concrètement, Dany, là, c'est dans ce vide juste en face de nous, là, c'est là qu'on va construire donc cette deuxième flèche.
Ah oui, tout à fait, hein, tout à fait. En fait, en haut là, on va faire des colombages qui vont monter sur tout le côté, ouais. Et avec la structure en métal, ça va nous permettre de poser du coup le grès qu'on va faire acheminer par une crue à l'extérieur de la cathédrale. Et là, faut imaginer, pour l'instant, c'est du vide, tu vois, mais à un moment, en fait, ça va monter vraiment en flèche et ça va être génial. Hein.
Alors, j'ai pris donc là les dernières informations. Ouais. On les a mis sous plastique, on va aller voir. On a rencontré tout à l'heure deux touristes, on va vous les présenter. On est avec... Bonjour messieurs, dames.
Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes pas... J'ai compris, vous n'êtes pas de Strasbourg, hein, c'est
non,
ça?
Non, on vient de Guéret.
Dans la Creuse.
Ah d'accord, vous êtes de passage. Vous n'avez pas été gâté par la météo aujourd'hui?
Non. Non.
Alors je vais vous mettre à l'essai, vous n'êtes pas au courant. Je vais vous révéler en fait le nouveau projet qui a été développé ici à Strasbourg. Vous voyez en fait pour l'asymétrie de la cathédrale, un projet qui a été retenu. Je vous le présente. Je serais curieux de savoir ce que regardez ce que vous en pensez.
Ouais. Bon, c'est vrai que c'est original, mais bon, après il faut avouer que quand on a vu la cathédrale pour la première fois, on s'est dit elle est pas finie, donc c'est pas plus mal qu'il fasse quelque chose pour compléter le trou. Là.
Ah, c'est ça que vous avez dit qu'elle était que vous pensez qu'elle était pas finie.
Le reste de la ville est plutôt joli, mais là il manquait un truc, donc on s'est dit que c'est pas mal finalement.
Et vous, madame, là, quand vous voyez comme ça ce bec de cigogne gigante, ça ne vous dérange pas plus que ça?
Ah moi vous savez, je ne me fie qu'à la vie de mon mari.
Mais merci beaucoup messieurs dames, je vous souhaite un bon week-end malgré tout. Je reviens vers Dany. Dany, ça reste quand même un gros projet.
Ah oui, oui.
Dans votre carrière, comment ça s'inscrit? Vous êtes fier de ça, j'imagine?
Vous savez, moi j'ai commencé en tant qu'apprenti chez M. Charles Meyer. Donc moi j'ai fait toutes mes années là-bas et aujourd'hui c'est un petit peu comme une sacralisation du projet. Vraiment, c'est la fierté avant tout. Hein, ouais. C'est la fierté. Hein. Moi, c'est l'œuvre d'une vie, on peut dire. Hein.
Et je sais que votre femme qui nous écoute, elle vous a dit quelque chose de très intéressant.
Oui, elle m'a dit, tu sais, Dany, quand tu fais des constructions, c'est comme un bon bec ouf, hein. Ça met du temps à faire, et quand c'est bien fait, après c'est bon. Hein.
Comment elle s'appelle, votre femme?
Elle s'appelle Martine.
Martine, on la salue bien fort. Bon, François, on va aller se mettre à l'abri, parce que nous, là, il fait un temps vraiment épouvantable. On va se retrouver tout à l'heure depuis la plateforme, on va prendre les escaliers.
D'accord, c'est un temps de gueux, dirons-nous, comme dans Les Visiteurs, sur France Bleu Alsace. Bah oui, on parle de bâtisse, donc à l'époque médiévale aussi, avec cette cathédrale et ce projet pharaonique.
France Bleu Alsace, bienvenue chez vous.
On parle du best-of, du meilleur dans Bienvenue chez vous. On vous avait fait découvrir d'ailleurs à un moment la biérologie, ça vous fait sourire, c'est aussi le but, mais vous allez voir que c'est très sérieux, à l'instar des sommeliers pour le vin, Hervé Marziou est breton de naissance, mais cet Alsacien d'adoption ne s'est pas trompé de région en ce qui concerne la bière. Biérologue, ça consiste en quoi, Hervé Marziou?
Le métier de biérologue, c'est le spécialiste qui va encadrer la totalité de l'élaboration de la bière et ensuite de sa commercialisation, de sa consommation. Donc le biérologue commence avec les matières premières. Donc vous pouvez me voir dans des champs d'orge, vous pouvez me voir beaucoup en Alsace avec les producteurs de houblon, puisque c'est la région la plus importante de production de houblon. On a travaillé sur des variétés différentes pour, je dirais, enrichir les houblons d'Alsace. Et puis après, bien, c'est le brasseur. Donc, je dirais, apporter tout notre savoir-faire au brasseur, soit au niveau de la conception de sa recette, soit en cours d'élaboration, mais surtout au moment où la bière est terminée, la dégustation. En biérologie, la dégustation, c'est la clé de voûte, je dirais, parce que à ce moment-là, ben, le brasseur va voir que ce qu'il a réalisé, c'est exactement ce qu'il voulait faire comme bière, ou au contraire, va se dire, mais c'était pas tout à fait ça. Et là, on va travailler sur le mélange, par exemple, des maltes d'orge, ou bien le choix des houblons, ou bien les proportions, et puis la levure.
Vous êtes un peu le sommelier de la bière, finalement.
Oui, c'est ça. Oui, tout à fait.
Pourquoi on dit zytologie aussi?
Oui, tout à fait.
Ça vient du grec, non? Ou du latin?
Voilà, ouais. Tout à fait. Donc, zytologue, c'est zytos, la bière en grec. D'accord. Logos, le discours. Mais personnellement, je n'ai pas voulu, quand j'ai été nommé expert biérologue en 2000, le mot zytologue, parce que en 2000, je dirais, biérologue faisait déjà sourire les premiers rangs et s'esclaffer.
C'est d'ailleurs un humoriste, un comédien qui a créé le terme de biérologue.
C'est Ronnie Cooter. Alors, Ronnie Cooter a créé le mot biérologie. Mais lui tenait à son métier d'acteur et ne s'est jamais appelé biérologue de son vivant.
Et alors, comment est née cette passion pour la bière et l'envie d'exercer ce métier à travers cette passion? C'est arrivé comment?
Alors, c'est arrivé par un éblouissement que j'ai eu ici en Alsace. Je suis juriste de formation et j'avais été embauché par l'Alsacienne de brasserie. Et ma période d'essai sera passée, etc., je dis, bon, moi, je connais pas grand-chose à la bière. J'ai bu de la bière en tant qu'étudiant parce que c'était le produit alcoolisé le moins cher, mais je n'ai pas... Et donc, Michel Hatt, qui m'avait embauché, me dit, ben, vous allez aller, hein. Je vais appeler le maître brasseur, c'était Monsieur Auer. Et j'arrive dans cette salle de brassage et c'était absolument, je dirais, extraordinaire. Il y avait de la vie, il y avait de la vapeur, c'était beau. Donc j'ai gardé cet amour-là. Je dirais que c'est le début de l'amour de la bière. Ensuite, je me suis trouvé confronté à beaucoup de fermetures. Pas forcément au départ des fermetures de brasseries, mais des fermetures de sociétés qui faisaient partie de l'Alsacienne de brasserie.
Alors, on rappelle l'Alsacienne de brasserie, c'est un ancien groupe brassicole créé en 1969, fusion de 5 brasseries alsaciennes. Il y avait la brasserie Mutzig, la brasserie de l'Espérance, Perle, et la brasserie de Colmar, c'est ça, et la brasserie Hague, je crois.
Voilà, de Dingwiller, voilà. Tout à fait.
Donc tout ça, ça s'est transformé en Heineken un peu plus tard.
Heineken va faire une OPA, voilà. Tout à fait.
Et donc vous avez vécu tous ces changements.
Ah, oui, disons que c'était la fin de l'OPA, parce que l'OPA, on, à l'époque on le disait pas, mais aujourd'hui on dirait que c'était une OPA hostile. Par contre, effectivement, quand Heineken va être actionnaire principal, certaines personnes vont être gardées, d'autres non. Moi, je vais faire partie de ceux qui sont gardés. Et après, et donc, je vais m'intéresser, si vous voulez, à l'histoire de la bière, parce que j'aime l'histoire. Et il y avait effectivement matière extraordinaire à aller remonter les années, etc. Puisque avec notre concurrent Cronenbourg, on remonte à 1664, à l'Espérance 1746.
À Météor 1640 quand même, hein, s'il vous plaît.
et je reprends. Voilà, tout à fait, mais dans l'ordre, c'est après que j'ai découvert...
Ah oui, quand même, vous n'êtes pas aussi âgé, Hervé Berthiaud. Qu'est-ce qu'on se marre. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et pour retrouver toutes les émissions, bienvenue chez vous en replay, rendez-vous sur francebleu.fr /Alsace, rubrique Bienvenue chez vous. Demain, on va cuisiner pour pas cher des recettes étudiantes, cheap, rapide et sans four. Comment? Rendez-vous dans Bienvenue chez vous dès demain, 10h-11h.
France Bleu Alsace, 10h-11h. Bienvenue chez vous.
Et là, tout de suite, c'est Maxime Dillinger. On vous retrouve en direct d'où, Maxime Dillinger?
est juste en face de vous.
Ah bah oui, vous êtes là.
Bah oui, parce qu'on est en studio. Et oui, évidemment, c'est un caca, un nunu, un lalard.
Non, un poisson d'avril.
Oh non, c'était un canular. Je vous présente. Alors, Laurine, Camille, Christophe. Oui. On a également Adrien, on a Baptiste. Tout ça, c'est des improvisateurs de la Loli.
Et on ne touche pas à la deuxième flèche de la cathédrale, hein, parce que c'est...
Mais évidemment, non. Évidemment. Mais il était beau ce projet avec la cigogne, moi j'aime bien quand même. Adrien, Baptiste, tu nous présentes la Lolita.
Oui. Alors oui, la Lolita, c'est la ligue d'improvisation... Ouverte et libre d'improvisation amateur, de théâtre amateur. Voilà, c'est une association qui a un peu plus de 30 ans, qui a, me semble-t-il, 31 ans, là, très très récemment. Et qui a vraiment pris de l'ampleur, on va dire, sur ces dernières années. On est quasiment 170 membres, 180 à l'heure actuelle. Ouais,
donc là, vous êtes l'équipe de la Lolita. Ça veut dire que vous une des équipes. Ça veut dire que vous faites des compétitions.
On a un championnat interne où on va faire des spectacles de type match d'improvisation. Ouais. Donc on est connu pour ça sur Strasbourg avec la Lolita. Et donc on se produit généralement au Fossé des 13, très fréquemment, où on va faire du coup des matchs d'improvisation avec nos 5 équipes de championnat de la Lolita.
Donc Dany, qui vous l'avez reconnu, était... Baptiste qui faisait Dany. Dany.
C'est exact.
Dany Martz.
Ouais. Dany Martz. Et puis on avait également Laurine. Laurine, toi tout à l'heure t'as fait plusieurs rôles, notamment c'était toi la fausse auditrice.
Oui. Jacqueline.
Voilà, Jacqueline. Mais un événement à retenir aussi à la Lolita, un festival.
Oui, tout à fait. Alors, en avril, c'est pas moins de 7 dates pour la Lolita. Ouais. Mais à noter notamment le Lolifest, qui est notre festival de la Lolita, du 19 au 21 avril. Et puis après, vous pouvez retrouver toutes les dates sur le site internet de la Lolita. La billetterie est en ligne. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir jouer.
Et merci infiniment d'être venu un lundi férié ici dans
Ils ont profité, ils ont mangé tout le chocolat, donc c'est cool.
Merci à vous en tout cas.
Merci, bravo.
Merci pour l'invitation.
Merci en tout cas. Et puis à demain, Maxime, pour de nouvelles aventures.
Oui, on va faire du BMX Race.
Ouais, ça ne sera pas un poisson d'avril.
France Bleu Alsace, 10h-11h. Bienvenue chez vous, François Pingano.
Véronique Herbotto, notre guide conférencière, en route pour une exposition qui va nous faire voyager avec vous, Véro.
Marie en Syrie, une expo qui nous fait voyager dans le passé en ce lundi de Pâques. Et voilà une bonne idée de balade, suivez votre guide. La Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg nous propose à nouveau une superbe exposition. Avec un peu de chance, vous y suivrez une visite avec Brice, un jeune étudiant en archéologie très sympathique. La cité mésopotamienne de Marie, M-A-R-I, est bâtie sur les bords de l'Euphrate en Syrie actuelle et elle date du 3e millénaire avant notre ère. À l'époque, c'était l'une des plus puissantes villes du Proche-Orient, l'ancien berceau des civilisations de l'écriture. Marie était une ville des routes et comme carrefour commercial, elle maîtrisait les échanges économiques entre l'Anatolie et le golfe Persique. Le commerce s'effectuait aussi bien par voie fluviale que par voie terrestre. Durant sa dernière période, sous l'impulsion des Sakanaku, c'est drôle car le nom sonne très japonais, mais ça signifie gouverneur, sous cette période, Marie a connu une sorte d'âge d'or. L'exposition regorge de trésors. À côté des objets d'art, se dévoilent également les textes cunéiformes. C'est la première forme d'écriture inventée en Mésopotamie il y a environ 5000 ans. Les scribes utilisaient un roseau à bout triangulaire pour tracer dans l'argile des formes en forme de clous. Certains objets sont magnifiques, mais j'ai particulièrement apprécié un très joli plat rond avec représenté en son centre une maman hérisson entourée de ses 8 petits. Je vous recommande très vivement cette très belle exposition, visible tous les jours, accompagnée de son magnifique catalogue d'exposition. À voir jusqu'au dimanche 26 mai 2024 et toutes les infos sur bnu.fr. Je vous souhaite un très très joyeux lundi de Pâques à tous et à demain les amis.
Merci beaucoup Véronique Herbotto, à demain. Et moi aussi je vous embrasse et
mettez le parapluie hein.
Oui, puis voilà, et puis je vous laisse avec Laurent Weisskopf, le retour pour le dengue avec encore un beau cadeau. Ciao.